RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage en Russie, aujourd'hui 80 ans après ce qu'on appelle la grande terreur stalinienne. Entre août 1937 et novembre 1938, 725 000 personnes ont été fusillées, soit un citoyen sur 200. Des milliers d'autres sont envoyés dans les camps, au moins 2 millions de personnes n'en sont pas revenues. Et pourtant, aujourd'hui, d'après un récent sondage, 20% des Russes n'en ont jamais entendu parler. Les derniers témoins se battent donc pour que l'histoire n'oublie pas ce que certains historiens considèrent comme le plus grand massacre d'État perpétré en Europe en temps de paix. Russie, la grande terreur stalinienne, les derniers témoignages contre l'oubli. Grand reportage, signé Muriel Pompane.
1937, Staline signe l'oukaz secret numéro 00447 qui donne l'ordre de liquidation des ennemis du pouvoir soviétique. Il n'y a que deux peines possibles, la mort ou 10 ans de camp. Chaque région a des quotas de fusillés et de déportés à remplir. À Perm, dans l'Oural, Angelina Bouchouyeva se souvient de son père. Elle avait 2 ans quand il a été arrêté.
En 1937, mon père avait tout juste 30 ans. Il était chef d'équipe à l'usine de construction navale. Les gars sont partis déjeuner, ils étaient 7. Ils ont tous été arrêtés à la sortie de l'usine et mis dans ces voitures noires qu'on appelait corbeaux noirs. Voilà, ça s'est passé en juillet 1937. Et le 17 janvier 1938, il a été fusillé. Le 14 février, mon frère aîné, nous sommes devenus 3 enfants. Et en juillet 1938, ma mère aussi a été arrêtée. Ma sœur et moi, on a été mis dans des orphelinats, mais ma mère n'a pas lâché mon frère qui avait 6 mois en disant qu'il faudrait d'abord lui passer dessus.
Puis en décembre 1943, elle rejoint sa mère dans un camp pour les épouses des traîtres à la patrie, situé au Kazakhstan. Elle y vivra jusqu'en 1946 avec sa sœur, sa mère et son petit frère.
Ma mère avait passé 3 ans de régime sévère derrière les barbelés. Après, elle était restée dans la colonie sans avoir le droit de partir. Ils voulaient la faire travailler comme comptable, mais elle avait refusé. Elle ne voulait pas de travail intellectuel car elle était traumatisée par la privation de ses enfants. C'était horrible. Alors, elle est devenue cuisinière pour les gardiens. Elle disait parfois, l'ennemi du peuple nourrit les militaires. Quand on est arrivé, on nous a installés dans le baraquement numéro 5. Il y avait une centaine de personnes. Je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. Le soir, après le travail, les femmes tricotaient des moufles pour les soldats. Celles qui dépassaient les normes avaient droit à une ration supplémentaire. On était nourris une fois par jour, une soupe au millet avec un petit morceau de graisse et 2 morceaux de pain. Si on avait une ration supplémentaire pour les moufles, on en gardait dans notre gamelle pour le soir.
Perm est une ville de la zone, autrement dit de prison et de camp. À l'initiative de Alexandre Kalik, son fondateur, l'association Mémorial a construit un monument en mémoire des victimes des répressions staliniennes.
C'est le monument que Mémorial a construit au début des années 90, sans un copec de l'État, juste avec une collecte de fonds. Il est volontairement construit en matériaux bruts. Les poteaux en béton font penser aux poteaux des camps, une cloche en mémoire des victimes des répressions, les barbelés. Le concept est très simple. L'étoile, à la base, c'est le symbole de l'idéologie rouge sur lequel a poussé toute cette violence. Pourquoi on a érigé le monument à cet endroit ? Parce que le bâtiment jaune que vous voyez en contrebas, c'est l'ancienne prison NKVD numéro 1, par où sont passées les masses de personnes réprimées. Dans les années 80, des témoins nous ont raconté comment, la nuit, ils avaient dû transporter les corps des fusillés et les entasser dans le fossé. Là, dans les jardins des datchas, il arrivait que les gens retrouvent des ossements. Des preuves que tout ça a bien eu lieu ici. Ici, c'est le tristement connu square des décembristes qui jouxte la prison du NKVD numéro 1. En 1937-1938, Il y avait tellement de personnes arrêtées qu'il n'y avait pas assez de cellules et des centaines de gens devaient attendre dans ce square. La règle était la suivante, il était interdit d'être debout, on devait rester couché ou assis, celui qui se levait était fusillé. Ensuite, les prisonniers étaient emmenés en colonne vers les gares et transportés en wagons de marchandises jusqu'à Sverdlovsk. Là, ils étaient jugés par une troïka, une commission extrajudiciaire composée du premier secrétaire régional du parti, du président du comité d'exécution et du chef du NKVD local. Le procès ne durait pas plus de 10 minutes. D'après l'Oukaz 00447, il s'agissait d'une véritable opération militaire. Des quotas étaient imposés à chaque région. Pour la région de Sverdlovsk, par exemple, 10 000 personnes devaient être arrêtées et 40% fusillées. Donc, 4 000 fusillés et 6 000 envoyés dans les camps. La plupart des fusillés ont été exécutés à 12 km de Sverdlovsk. Sur notre site, il y a les 7 474 victimes du 12e kilomètre. Cette liste nous a été transmise à l'époque par le KGB.
Pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, à l'endroit de la dernière adresse connue des victimes, Mémorial cloue une plaque de métal de 12 cm sur 17 où sont gravés le nom et la date de naissance, la date de l'arrestation, celle de l'exécution et celle de la réhabilitation. Une ouverture carrée est la marque de l'absence.
Les plaques dernière adresse que l'on va voir dans ce quartier concernent surtout des victimes de l'opération polonaise. En 1937, les Polonais ont été désignés comme les principaux ennemis. C'était une énorme opération de répression basée sur le critère de nationalité. D'après différentes sources, de 110 000 à 130 000 personnes ont été fusillées.
Alexandre Tchernichov est chargé du projet Dernière Adresse à Perm.
Ces plaques-là, c'est la famille des Chablov. Ils étaient arrivés de Lituanie quelques années avant l'arrestation. La mère et le fils, tous les deux fusillés le même jour. Vous imaginez cette image horrible, fusillés le même jour? Peut-être étaient-ils dans le même convoi. Ils ont été arrêtés parce qu'ils fréquentaient l'église catholique polonaise. Pour aller plus vite, on avait pris la liste des paroissiens de l'église polonaise. Je ne sais pas si tous les paroissiens ont été arrêtés. Mais beaucoup. Voilà, c'est comme ça qu'on accusait les gens d'espionnage.
Pendant plus de 50 ans, les familles des victimes se sont tues, comme Angelina.
Je n'en ai jamais parlé à personne au travail. En 89, nous avons créé Mémorial. C'est là que mes collègues l'ont appris. Et ma mère non plus n'en avait jamais parlé. Elle disait, ce qui est passé, on a survécu et ça va. On n'était pas les seuls comme ça. Quand nous avons créé l'association des victimes des répressions politiques, des tas de gens sont venus nous voir. Dans mon arrondissement, il y avait plus de 900 personnes. Les gens se regardaient et étaient surpris de s'y rencontrer. Des copines qui se connaissaient depuis l'école, qui avaient travaillé ensemble, ne savaient pas que toutes étaient des victimes de la répression. C'est beaucoup plus tard qu'on a commencé à en parler. Je pense qu'il ne faut pas oublier. Il faut en parler. Dieu nous préserve que cela se reproduise.
Un monument a également été construit là où les corps des victimes ont été retrouvés.
Au 12e kilomètre, il y a des grandes plaques avec les noms des victimes. Lors de la construction de l'autoroute vers Moscou, la pelleteuse a déterré des crânes. Alors on a fait des fouilles et on a découvert des corps sur plusieurs niveaux. Alors on a construit un grand monument commémoratif avec les noms de famille des victimes, dont celui de mon père, Bouchouyev.
Aujourd'hui, 80 ans plus tard, il est toujours difficile de parler de cette époque, comme en témoigne Ivan Vassiliev, un jeune homme qui travaille pour Mémorial. Les expositions qu'il propose dans les écoles ne sont pas toujours les bienvenues.
Cette exposition itinérante sur la répression dans la région de la Kama, on la présente dans les établissements d'éducation professionnelle de Perm. Dans un établissement, un groupe d'étudiants est venu me voir avec une professeure âgée de 50-55 ans. Au milieu de la conférence, elle m'a interrompu en disant que les étudiants devaient reprendre leurs cours. J'ai alors demandé aux étudiants s'ils voulaient continuer à m'écouter. Et ils m'ont dit que oui, que cela les intéressait, mais la professeure n'a pas cédé. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a répondu que ça lui faisait de la peine de me parler, que sa grand-mère était allée jusqu'à Berlin, que sa mère avait vécu dans l'URSS. Des propos qui n'avaient rien à voir avec l'exposition. Mais probablement, je l'avais offensée en disant que dans notre cher pays, tout n'était pas aussi beau qu'elle l'imaginait.
Что в нашей стране не все так гладко было, как, видимо, она себе представляла.
Un autre professeur a reproché à Ivan de provoquer la haine au sein de la société russe. Car pour les détracteurs de l'association Mémorial, il ne fait pas bon remuer le passé. C'est pourtant ce qu'a fait Denis Karagodin, un habitant de la ville de Tomsk. Il a recherché et retrouvé les responsables de la mort de son arrière-grand-père, exécuté le 21 janvier 1938. Une démarche saluée par Alexandre Daniel, historien et fils de dissident.
Karagodin a fait une chose très importante. Il a transféré une catégorie purement philosophique de culpabilité sur le plan de la responsabilité juridique des personnes concrètes pour des crimes concrets. Et il a reconstruit cette chaîne des responsabilités à partir des exécuteurs directs de son arrière-grand-père jusqu'aux hauts responsables de la politique de la terreur. Ça a rendu les choses très claires. Évidente pour le public. Et la polémique est apparue, non pas autour de cela, mais autour d'une femme qui a écrit qu'elle était descendante d'un des bourreaux de Karagodin et qu'elle se sentait coupable. La réaction de cette femme est une réaction saine, normale, mais je pense qu'elle n'a pas bien choisi ses propos. Elle n'est coupable de rien, bien entendu. La responsabilité dont il s'agit, c'est notre responsabilité commune, qu'elle porte autant que moi ou que quelqu'un d'autre, car c'est notre responsabilité pour notre histoire, quels que soient nos ancêtres.
En dépit des réticences de l'État, les Russes sont nombreux à faire des recherches sur ce qui est arrivé à leurs ancêtres pendant la Grande Terreur. Alena Kozlova dirige les archives de l'association Mémorial à Moscou.
Nous conservons les documents que les gens nous apportent. Parmi les dossiers, il y en a qui ne contiennent que quelques documents et d'autres qui en contiennent beaucoup. Parfois, ce sont des listes. On en a environ 40 000. Le nombre de personnes concernées, disons 40 000, plus le programme polonais qui concerne plus de 20 000 personnes, la répression des minorités ethniques. Je pense que l'on pourrait recenser quelques 100 000 noms.
Mémorial aide aussi les familles à avoir accès aux archives des services spéciaux.
Il faut présenter un document qui établit la parenté et on peut avoir accès aux archives depuis la loi sur la réhabilitation dans les années 90. Mais les conditions d'accès à ces documents, même pour les proches, deviennent de plus en plus difficiles. Voici un dossier où la personne a dû faire preuve de beaucoup de volonté pour obtenir le document. Les informations intéressantes sont dans le livre des horaires des interrogatoires de la prison Les Fortovo du NKVD. Il y a le nom de la personne et les indications horaires du début de l'interrogatoire et de la fin. On voit que la plupart des interrogatoires ont lieu la nuit. Ils commencent par exemple à 20h, se terminent à minuit, ou commencent à 11h du matin et se terminent à 10h le lendemain, ou commencent à 21h et se terminent à 3h du matin. Dans la journée, il leur était interdit de dormir et la nuit, ils subissaient les interrogatoires. Ce document nous permet ainsi de comprendre dans quel état ils pouvaient être.
Dans le bureau d'Alena Kozlova, un dossier assez emblématique.
Là, c'est le dossier Drozdov. Son père était comptable, à partir de 1934, dans le plus grand camp de la Kolyma. Son chef direct était Édouard Berziné, membre de la Tchéka et fondateur des camps de travail de la Kolyma. En 1938, Drozdov a été arrêté et il a été emprisonné là-bas jusqu'en 1951, puis assigné à résidence jusqu'en 1956. Et une fois libéré, il a continué à travailler comme comptable dans les camps de la Kolyma.
Donc en fait, son père travaillait avec Berziné, c'est-à-dire qu'il a été victime, mais il a été aussi dans le système de répression.
Il est était impossible de faire la distinction, comme en Allemagne, entre les fascistes et les non-fascistes. C'est impossible car des millions de gens libres travaillaient dans le système des camps. La Colima, c'était un complexe d'extraction de minerais. Donc il y avait des ouvriers, des comptables, des constructeurs, des ingénieurs qui travaillaient tous dans ce système. En plus, la région n'existait pas en tant qu'entité administrative, c'était le territoire du NKVD. Donc tout ce qui respirait, bougeait, naissait, était d'emblée dans ce système. La maternité, les jardins d'enfants, les institutrices, parce qu'il y avait des jardins d'enfants du NKVD. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens avaient des épaulettes. Loin de là. Donc pareil pour le père de Drozdov. Il a travaillé comme comptable, d'abord en tant que personne libre, puis en tant que prisonnier. Là, par exemple, voici son certificat de bon travailleur en tant que comptable. Donc ici, cette réflexion, elle n'est pas possible. Moi, je n'oserais pas classer son père ou une éducatrice du jardin d'enfants comme responsable du système NKVD.
Il reste peu de vestiges de la répression stalinienne. Le seul camp existant encore est celui de Perm 36, à une centaine de kilomètres de Perm. Il ne date d'ailleurs pas de la période de la Grande Terreur, mais de 1946. Tatiana Coursina a sauvé ce camp pour le transformer en musée. Dans l'enceinte, hérissée de barbelés et entourée de miradors, la zone de travail du bois, avec une ancienne scierie, est séparée de la zone d'habitation par un sas en plein air.
Les prisonniers faisaient la queue dehors pour passer de la zone de travail à la zone d'habitation. Or ici, l'automne commence très tôt en septembre et l'hiver se termine très tard. En hiver, il fait moins 30, moins 40, moins 50 et c'est la température normale. Et il fallait y passer 4 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Au point de contrôle, le prisonnier était fouillé complètement des pieds à la tête pour qu'il ne passe rien d'une zone à l'autre. Et c'était aussi une occasion supplémentaire d'humilier les gens, de les faire attendre des heures, sous la neige, sous la pluie, dans le vent, un endroit où les prisonniers ont laissé une bonne partie de leur santé. Ici, ce baraquement d'habitation, c'est le lieu le plus ancien de Perm 36. C'est à cet endroit qu'en 1946 ont été construits les 4 baraquements où près d'un millier de personnes étaient logées. Selon les années, ils étaient entre 800 et 1200. C'est un baraquement classique de la période des goulags. Il est authentique et semblable à ceux qui existaient dans la Colima.
Des cellules avec pour tout meuble un bas-flanc et même pas de trou pour se soulager. Un peu plus loin, les cellules d'isolement sont encore plus petites. Après plusieurs années d'activité, l'association qui gérait Perm 36 a été déclarée agent de l'étranger. Les autorités en ont repris la gestion. Fini le festival qui chaque année drainait des centaines de visiteurs et permettait de débattre du système concentrationnaire. L'association Mémorial se bat pour imposer ce thème dans l'espace public, car pour Robert Latipov, président de Mémorial Perm, il n'y a pas de fatalité.
La question de la responsabilité, c'est l'une des contradictions principales qu'on constate dans la culture de la mémoire. Cette responsabilité, elle ne va pas au-delà du fait que nous, les proches des victimes, nous devons nous souvenir qu'un jour, ce malheur est arrivé. On ne parle même pas de crimes commis par l'État à leur égard, mais d'un malheur. Notre mémoire collective subit une forte influence de l'État qui veut que la société se souvienne de certains moments précis avec une interprétation déterminée. Et l'histoire des répressions est toujours secondaire par rapport à l'histoire héroïque. En Russie, l'orientation qui est donnée par l'État, c'est qu'on peut se souvenir des victimes, comme des victimes d'une catastrophe naturelle ou d'un incendie. Ce genre de mémoire, c'est normal. Mais voir qui est coupable de cette tragédie, qui donnait des ordres, qui les exécutait ou qui les favorisait, par exemple à travers la délation, ça, ce n'est pas dans les traditions. Le travail de Mémorial, ce n'est pas sur le passé. Le passé, c'est une base pour parler du pays où nous habitons aujourd'hui. Et nous essayons, non pas de le réformer, mais d'introduire de nouvelles traditions dans cette culture de mémoire et dans cette culture des relations entre l'État et ses citoyens.
Pour ne pas oublier, chaque 30 octobre, des centaines de volontaires se rassemblent et listent en public le nom des millions de victimes des répressions staliniennes. Pourtant, depuis quelques années, Staline est à nouveau glorifié. Russie, la grande terreur stalinienne, les derniers témoignages contre l'oubli. Reportage Muriel Pomponne et Katia Bernikova. Réalisation Eva Moschinski.